VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel, 9e débat démocrate des candidats à la présidentielle américaine de novembre. Critiqué pour sa fortune et sommé d'expliquer des pans embarrassants de son passé, le milliardaire prétendant à la Maison-Blanche, Michael Bloomberg, a peiné à répondre mercredi à un barrage d'attaques virulentes. René Lecq, analyste politique, tire ici les leçons de ce débat.
Je pense que ça a été un débat extrêmement vif, extrêmement vigoureux, parfois même un petit peu violent. J'ai l'impression que la roue a de nouveau tourné. Les premiers débats, ce qu'on appelle un peu les progressistes, notamment Sanders et Elizabeth Warren, avaient le vent en poupe. Ensuite, ça a été ce qu'on appelait les modérés qui ont repris un peu la main, notamment le maire Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, la sénatrice, et Biden, bon, qui lui a toujours été plus ou moins assez terne dans tous les débats. Et là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est revenu un peu à la case départ, entre guillemets, où vraiment les progressistes, donc notamment Elizabeth Warren et Bernie Sanders, ont vraiment fait feu de tout bois et ont été vraiment excellents dans leurs prestations.
Tout le monde attendait de juger la capacité de Michael Bloomberg, le candidat inattendu, qui a fait le pari d'une entrée tardive dans la campagne présidentielle, mais qui jouit plutôt des sondages favorables. Que pensez-vous de sa prestation?
Alors, écoutez, c'est comme vous le dites, hein, les feux étaient braqués sur lui et je pense que ça a été simplement un désastre. Il a été attaqué de toutes parts avec énormément de violence. Je suis assez surpris de la faiblesse de ses réponses quand il en a donné même. Certaines questions, il n'est même pas arrivé à répondre. Et c'est étonnant parce que toutes ces questions-là qui lui ont été posées sont des questions, il s'y attendait, il savait qu'on allait lui poser. Ce sont des controverses dont on parle depuis des semaines et des semaines à son encontre. Et donc, j'ai été surpris qu'il n'était pas mieux préparé. Alors, on peut dire que peut-être qu'il était préparé, mais qu'il ne voulait pas accepter le type de réponse que ses équipes lui demandaient de donner. Et il ne l'a pas fait. Et je pense que ça a été un désastre, tout simplement, il n'y a pas un autre mot.
L'analyste politique René Lecq, joint par Nanit Talani, ici même à Washington. L'ancien conseiller de Donald Trump, Roger Stone, sera fixé aujourd'hui sur sa peine dans un dossier parasité par les interventions du président américain et de son ministre de la Justice qui suscite des remous. À Washington, le consultant politique de 67 ans, qui se présente comme un vieil ami du président républicain, a été reconnu coupable en novembre d'avoir menti au Congrès dans le cadre de la tentaculaire enquête sur les ingérences russes dans la présidentielle de 2016. Le parquet antiterrorisme allemand s'est saisi aujourd'hui matin de l'enquête sur les fusillades qui ont fait 9 morts hier soir près de Francfort et soupçonne une motivation xénophobe de l'acte. D'après un porte-parole, selon des sources proches de l'enquête, une lettre d'aveu et une vidéo ont été retrouvées alors que la police avait annoncé avoir retrouvé mort le probable auteur du crime dans un appartement aux côtés d'une autre personne décédée. Deux passagers du navire de croisière Diamond Princess qui étaient infectés par le coronavirus sont décédés, précisant qu'il s'agissait d'un homme et d'une femme octogénaire. Cela porte à 8 le nombre de décès liés au virus hors de Chine continentale où l'épidémie s'est déclarée. Le navire représente le plus important foyer de contamination hors de Chine avec 621 cas confirmés dont 79 ont été identifiés mercredi. Des centaines de passagers du bateau ont été autorisés par les autorités japonaises à débarquer graduellement mercredi. 19 enfants en figurent parmi les civils tués dans une attaque samedi dernier dans le nord du Yémen, a indiqué aujourd'hui l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, dans un communiqué. Selon les Nations Unies, au moins 31 civils ont été tués dans des raids aériens au lendemain du crash d'un avion de combat saoudien de la coalition militaire engagée contre les rebelles houthis dans la guerre au Yémen.
Nos infos sur voafrique.com.
L'armée gouvernementale sud-soudanaise et les différents groupes rebelles en guerre ont délibérément affamé les habitants du pays en leur refusant l'accès à l'aide humanitaire et en les forçant à quitter leur foyer selon un rapport de l'ONU publié aujourd'hui. Ce rapport est publié 2 jours avant la date butoir pour la formation d'un gouvernement d'union nationale prévue par l'accord de paix de 2018, mais qui a fait l'objet de multiples querelles. Les délais dû à un manque de volonté politique, selon la Commission des Nations Unies. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 5 autres corps ont été retrouvés hier, 2 jours après le massacre d'au moins 10 personnes dans une attaque attribuée au groupe armé Force démocratique alliée. Eddy Sango.
Les 5 corps ont été découverts mardi soir vers les parcs nationaux de Virunga. Les chefs d'égroupement des Malambo, situés au sud-est de la ville de Beni, estiment qu'il s'agit des corps d'habitants pris en otage par les rebelles ADF lors de l'attaque dans la nuit de lundi à mardi, ce qui porte à 398 le nombre de personnes tuées dans la région de Beni depuis début novembre. 8 civils, 1 militaire et 1 agent des services des renseignements étaient tués dans la dernière attaque. La présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, des passages lundi à Beni, a promis aux populations que les autorités faisaient tout pour mettre un terme à ces tueries. L'armée a engagé une offensive depuis novembre et plusieurs fois annoncé avoir capturé des fiefs des rebelles musulmans ougandais accusés des massacres répétés dans cette zone depuis 2014.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a imprimé sa marque sur la haute magistrature en assistant mercredi à la prestation de serment de haut magistrat qu'il vient de nommer pour réformer la justice avec pour priorité la lutte anticorruption. Ces nominations ont suscité beaucoup d'espoir chez les défenseurs des droits humains qui accusent la justice d'être corrompue, lente et de se prononcer à la tête du client. La RDC occupe la 168e place sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption établi par l'ONG Transparency International dans un rapport rendu public fin janvier. En Guinée, des membres de l'opposition ont été interpellés hier lors d'une nouvelle journée de manifestation contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé, cela à 2 semaines des législatives et d'un référendum à très haut risque. Abdourahmane Dia.
À Conakry, la capitale, des heurts ont opposé en plusieurs endroits les forces de l'ordre à des manifestants qui avaient érigé des barricades. Au moins 5 manifestants ont été arrêtés et au moins 3 militantes du Front National pour la Défense de la Constitution ont été interpellées à Conakry. Selon leur avocat, Salifou Beyavogui, elles ont été inculpées d'attroupement illégal et troubles à l'ordre public avant d'être écrouées. Par ailleurs, un convoi du FNDC a été attaqué à coups de cailloux dans la préfecture de Kissidougou, en Guinée forestière. L'opposition accuse des partisans du RPG au pouvoir. Un référendum constitutionnel est prévu le 1er mars, en même temps que des législatives boycottées par l'opposition qui menacent de tout faire pour empêcher la tenue de ces scrutins. Le pays est agité depuis mi-octobre par des manifestations contre le projet prêté au président Condé de vouloir briguer un troisième mandat fin 2020. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Alpha Condé a laissé la porte ouverte à une éventuelle candidature, affirmant que c'est son parti qui décidera.
Quelques 3,6 millions d'électeurs togolais sont appelés aux urnes samedi pour une élection présidentielle qui devrait reconduire pour un 4e mandat le sortant Faure Gnassingbé, dont la famille est à la tête du Togo depuis plus d'un demi-siècle. Ce sentiment d'une victoire annoncée est d'ailleurs partagé par un grand nombre de Togolais de l'opposition qui ne croient plus à une vraie alternance démocratique par les urnes. C'est donc en un front divisé que se présenteront samedi 6 candidats de l'opposition. La campagne ne passionne pas non plus les 7,8 millions de Togolais et sans les affiches électorales qui parsèment le pays, il serait difficile d'imaginer que la présidentielle et dans quelques jours à peine. Les négociations sur la formation du gouvernement en Tunisie ont donné lieu à un bras de fer entre le président Kais Saied et le parti d'inspiration islamiste Ennahda, qui ont finalement trouvé un accord mercredi, ce qui devrait écarter le spectre de nouvelles élections. Après l'échec en janvier d'un gouvernement constitué sous la houlette d'Ennahda, le premier ministre désigné par Kais Saied, Elias Fakhfakh, a présenté mercredi soir une nouvelle liste de ministres. Et Ennahda, qui avait initialement désavoué la composition du gouvernement, s'est finalement engagé à soutenir ce cabinet. Ce soutien ouvre la voie à son approbation par le Parlement où Ennahda dispose du principal contingent, 54 députés sur 217. Et puis une rencontre prévue aujourd'hui à Alger qui devait rassembler divers collectifs du Irak. Le mouvement de contestation populaire né il y a un an en Algérie a été reporté faute d'autorisation. Le Irak a obtenu la démission de M. Bouteflika début avril 2019, mais il continue de réclamer une véritable rupture avec le système politique en place depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal. Nous sommes le 20 février 2020.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.